Frères et sœurs, notre aide, notre consolation et notre force sont dans le Seigneur Dieu qui a fait le ciel et la terre et tous ceux qu'ils contiennent. Le confinement se poursuit. Notre désir et notre détermination à nous retrouver par médias interposés ne faiblissent pas. Nous avons pleinement conscience que c'est l'amour du Christ ressuscité qui fait de nous des frères et des sœurs. C'est lui qui nous donne un regard nouveau que nous posons sur ce que nous appelons aujourd'hui frères et sœurs. C'est lui qui nous rassemble autour de lui et désire nous combler de ses grâces multiples et variées. Recevons donc de la main de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur, et du Saint-Esprit, notre Consolateur, la grâce, l'amour et la paix. Amen. Nous chantons en l'honneur du ressuscité, Christ est ressuscité, cantique dans le recueil Chant de Victoire numéro 9.
Christ ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur. Prince de vie et prince de paix, de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ ressuscité, cherche en lui toujours. Force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix, de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivrons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix, de paix. Gloire à toi, 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 gloire à jamais. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à jamais.
Invoquons le Seigneur, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à toi au nom de Jésus d'être avec eux. Merci d'honorer ta promesse. Puisses-tu nous accorder de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie, et de nous laisser transformer par l'œuvre de ton Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dans une vision qu'il eut, Jean, l'apôtre, ou le voyant, est transporté au ciel où il assiste à une liturgie de louanges qui ne peut nous laisser indifférents. Voici ce qu'il vit. C'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 11 à 13. je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Comme le firent les anges et tous ces êtres célestes, nous aussi n'allons pas rester indifférents, nous allons louer le Seigneur. Et nous le ferons par la prière, mais aussi par le chant. Prions. Ton peuple assemblé te loue et te rend grâce, Seigneur Dieu, notre Père, car tu n'as pas abandonné ton Fils au tombeau, mais tu l'as ressuscité d'entre les morts. Lui, le Prince de la vie, Jésus, notre Seigneur. Il est le véritable agneau de la Pâque, offert en sacrifice pour le péché du monde. Par sa mort, tu as détruit notre mort, et par sa résurrection, tu nous as rendu la vie. Par lui, nos corps mortels revêtiront l'immortalité, et toute la création aura part un jour à la liberté glorieuse de tes enfants. Grâce te soit rendue, ô Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous chanterons à la suite deux cantiques, ce nom si merveilleux, Dieu ta fidélité, dans J'aime 432.
Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux.
Sous
Prenons quelques instants, comme nous en avons l'habitude quand nous sommes ensemble à Uccle, pour une prière intérieure. Et maintenant, dans la présence de Dieu, nous savons que quand le Père unit ses enfants autour de lui, il a une parole à leur adresser. Écoutons avec respect sa volonté pour nous. Et cette volonté est tirée de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 11 à 15. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi, et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Fin de citation. Nous nous recueillons devant le Seigneur et nous lui demandons de sonder notre cœur et nous chantons « Sonde-moi, ô Dieu, Arc-en-ciel 432 ».
Connais
Unissons-nous maintenant dans la prière en reconnaissant notre péché devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, la fête de Pâques est passée. Mais est-ce vraiment du passé? Chaque jour nous vivons de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Il nous appelle à la vie. Il nous offre la vie. Nous nous humilions devant toi de ne pas être débordants de reconnaissance, de nous comporter comme si ton Fils n'était pas vivant et vivant parmi nous pour toujours. Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Jésus-Christ est là. Il nous précède sur nos routes. Il nous accompagne. Et nous restons bien souvent en arrière, hésitants, incertains, apeurés, refusant parfois tout net d'avancer, alors que la joie, la certitude du triomphe de la vie devraient se lire sur nos visages pour que nous les communiquions à d'autres et pour animer nos pas. Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Au soir de Pâques, à tes premiers disciples que la confiance avait abandonnés, tu as dit « La paix soit avec vous ». Et de même aujourd'hui, tu nous redis « La paix soit avec vous ». Et tu nous presses de sortir de nous-mêmes, de notre monde clos et cloisonné, de nos peurs, de nos timidités, de nos inimitiés. Tu nous envoies annoncer cette paix que nous obtient ta victoire sur le mal et la mort. Seigneur, redonne-nous confiance en toi. Donne-nous du courage et nous nous remettrons en marche. Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Accueille notre prière au nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Alors, frères et sœurs, de là où vous êtes, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu, parce que Dieu désire que nous soyons debout et que nous soyons en marche. Écoutons cette parole merveilleuse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute femme et tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, nous pouvons maintenant être en paix avec lui. Gloire à Dieu et merci au Seigneur qui nous pardonne. Et maintenant, comme c'est une habitude chez nous, et il y a des bonnes habitudes, c'est le temps consacré aux enfants. Et c'est David qui a un message à adresser aux enfants et qui priera pour eux aussi. Écoutons.
Bonjour les enfants. Il doit bien y avoir un an ou deux ans de cela, on avait vu à la DE une leçon sur Jacob. Et en parallèle de cette leçon, nous avions travaillé le thème de l'amour. On s'était demandé, c'est quoi l'amour? Mais aussi, comment aimer? Vous vous en rappelez? Si vous avez à portée de main le carnet de cette leçon, vous trouverez en haut de la page 21 deux versets de l'évangile de Jean que je vous avais alors partagé. Il s'agit de Jean 13, les versets 34 à 35. Je vous les lis. Il s'agit ici de Jésus qui parle à ses disciples. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Dans ces versets, Jésus explique que la marque de fabrique des chrétiens, la chose qui les caractérise, c'est l'amour. Et que cet amour repose tout d'abord sur l'amour de Jésus pour nous. C'est parce que Jésus nous a aimés, c'est parce qu'il nous aime, que nous devons aimer les autres à notre tour. Mais comment aimer? On avait alors parlé de cinq langages d'amour, de cinq manières de montrer son amour aux autres pour leur dire « je t'aime ». Vous vous en rappelez? Premièrement, on a dit qu'on pouvait montrer son amour avec notre bouche, c'est-à-dire avec nos mots, nos paroles, en disant des choses gentilles, en remerciant, en complimentant, en encourageant. Deuxièmement, on a dit qu'on pouvait montrer son amour en touchant, en donnant des câlins, par exemple, ou un bisou. Troisièmement, on a dit qu'on pouvait montrer son amour en rendant des services, en aidant nos parents à faire la vaisselle, en aidant un ami à comprendre quelque chose qu'il n'a pas compris. Quatrièmement, on a dit qu'on pouvait montrer son amour en passant du temps avec les personnes qu'on aime, en faisant des activités avec elles, comme des jeux, des promenades, des sorties. Et enfin, cinquièmement, on a dit qu'on pouvait montrer son amour en offrant des cadeaux. À présent, laissez-moi vous raconter une histoire en rapport avec une de ces façons de dire « je t'aime ». Cette histoire commence ainsi. Un jour, un couple a un enfant, un petit garçon. Mais la particularité de ce petit garçon, c'est qu'il ne disait rien. Il ne faisait aucun bruit. Par exemple, à sa naissance, il ne poussa pas même un petit cri. Ses parents ne s'en étaient pas inquiétés. Ils se disaient juste que leur enfant était très calme, que c'était bien. Mais voilà que l'enfant grandissait et qu'il n'émettait toujours pas le moindre son. L'enfant restait muet. Les parents conduisirent l'enfant chez le médecin, mais le médecin ne trouva rien d'anormal et ne comprenait pas pourquoi il ne parlait pas. Pour lui, tout fonctionnait normalement. Il devrait pouvoir parler. Les années passèrent, l'enfant était aimé, il était choyé par ses parents, par ses proches, et toujours pas un seul son qui sortait de sa bouche. Et voilà qu'un jour, alors que l'enfant était devenu grand et qu'il allait sur ses 16 ans, il pointa un matin son doigt en direction de la cafetière de son papa, et ensuite vers sa bouche. Son papa, qui était habitué à ces petits signes, avait tout de suite compris ce que son fils voulait. « Ah, mon fils, c'est vrai que tu es devenu grand. Tu peux bien te mettre à boire du café. Tiens, voilà un café, bien noir et bien serré comme les aime ton papa. » Ça voulait dire un café bien fort et très amer. Le garçon prend la tasse, boit une gorgée et s'exclame « Ah, pouah ! Mais c'est affreux ! Ça manque de sucre ! Et c'est beaucoup trop fort !» Le papa resta la bouche grande ouverte quelques secondes. « Quoi, mon fils ? Mais tu parles ? Comment se fait-il que tu n'aies jamais rien dit jusqu'à présent ?» Et le fils répondit « Mais papa, bien sûr que je parle. C'est juste qu'avant aujourd'hui, tout allait bien. Du coup, j'avais rien à dire. » Curieuse, cette histoire, non ? En la racontant, je voulais attirer l'attention de chacun, de chacune, sur la manière dont il fait usage de sa parole. Nous servons-nous de notre bouche uniquement pour réclamer et dire ce qui ne va pas? Ou nous en servons-nous pour témoigner de notre amour autour de nous, pour réconforter les personnes qui sont autour de nous, pour les encourager et leur dire que nous les aimons, pour les remercier pour tout ce qu'elles nous apportent? Je vous laisse sur cette réflexion. Et je vous donne un défi pour toute la semaine qui vient. Chaque jour, sers-toi de tes paroles, de ta bouche, pour montrer ton amour au moins à 3 reprises. Peut-être que tu pourrais téléphoner à tes proches pour leur dire que tu les aimes. Peut-être que tu pourrais remercier tes parents pour ce qu'ils font pour toi. Peut-être que tu pourrais dire à ton frère ou à ta sœur que tu l'aimes, même s'il est vrai que parfois il t'énerve ou elle t'énerve. Peut-être que tu pourrais aussi fermer les yeux. et dire à Dieu à quel point il est bon. Je te laisse réfléchir à tout ça et je te propose à présent un moment de prière. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Alors Seigneur, c'est vrai que nous lisons ta Bible, mais ta Bible, on l'appelle aussi la parole de Dieu. Alors oui, merci de nous avoir donné ta parole pour nous dire que tu nous aimes. Et je comprends que tu nous as aussi donné la parole à nous les humains. Nous ne sommes pas comme les animaux qui peuvent être très gentils, mais qui ne peuvent pas comme nous dire ce que nous avons dans le cœur. Oui, avec nos paroles, nous pouvons dire des choses très fortes. Alors, Seigneur Dieu, aide-moi cette semaine à dire 3 fois par jour à quelqu'un que je l'aime. Amen.
C'est normalement maintenant le temps de l'offrande, mais par ces temps qui sont les temps de confinement, nous apportons notre offrande par virement bancaire. Merci de ne pas oublier. L'offrande demeure un acte liturgique. Écoutons l'exhortation à l'offrande que nous donne l'apôtre Paul. Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. C'est tiré de l'épître, la deuxième, de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Je vous invite à la prière. Seigneur, veuille accepter notre offrande joyeuse, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail pour ton service et le service de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, mais auparavant, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer, de nous illuminer. Et c'est Hélène qui nous fait la lecture aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 24 à 31.
Prions tous ensemble. Dieu Saint, notre Père, toi qui veux nous offrir le meilleur, nous recevons ta parole avec reconnaissance. Conduis-nous à revoir dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté, l'ordre de nos priorités. Que nous puissions vivre toujours, joyeusement, pour toi et par toi, au nom de ton Fils, notre frère. Amen. Nous lirons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 24 à 30. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, Je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous !» Puis, il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !»« Parce que tu m'as vu, tu crois, » lui dit Jésus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom.
Avant d'écouter la prédication, je vous invite à chanter ensemble « Comme un souffle fragile », arc-en-ciel, 232. Frères et sœurs, nous sommes le troisième dimanche après Pâques. Pourquoi ne pas rester dans cette dynamique en poursuivant l'exploration et la méditation sur le cheminement différencié des disciples dans leur appropriation de la foi au ressuscité? Une chose est sûre, et nous ne le répéterons jamais assez, tous les disciples n'entrent pas dans la foi au ressuscité de la même manière. Souvenez-vous de Marie, de Magdala, des disciples enfermés dans la chambre le soir du premier jour de la semaine, des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Aujourd'hui, je vous invite à nous arrêter quelques instants sur Thomas, à qui le ressuscité apparaît 8 jours plus tard. Peut-être demain ou après-demain, nous allons explorer d'autres chemins de Pâques, des autres disciples. Vous savez que l'apôtre Paul parle des 500 frères, et puis il y a Paul lui-même, et puis il y a nous-mêmes. Bref, autant de chemins différents sur le chemin de Pâques. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur Thomas. Thomas, notre frère. Nous voulons mettre l'accent sur le cheminement de cet apôtre. Thomas est souvent présenté comme un cas à part, comme l'incrédule, le douteur, le sceptique, au milieu d'un groupe d'apôtres croyants du fait qu'il a posé des conditions pour croire au Christ ressuscité, à savoir, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne touche pas ses mains percées, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il est souvent donc présenté à cause de ces conditions comme le mouton noir de la bande. En passant, j'aimerais tout de même signaler que les autres disciples n'ont pas eu facile à croire en la résurrection du crucifié. Jésus lui-même leur a reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter des morts. Thomas pouvait-il croire au ressuscité sur la parole des autres sans l'avoir vu lui-même? Autrement posé, Thomas pouvait-il croire à la véracité d'une expérience qu'il n'a pas faite lui-même? De manière générale, la question fondamentale à se poser à tout moment ne serait-elle pas comment croire au ressuscité aujourd'hui par la parole des autres sans l'avoir vu ou au moyen de l'expérience des autres sans avoir expérimenté soi-même la rencontre avec le ressuscité? Pour le dire très simplement, existe-t-il une foi par procuration? Ça, c'est la question principale qui va nous occuper pendant ce temps. Puisque nous tenons pour vraies les Écritures et que nous croyons qu'elles nous sont données pour y entendre, y écouter la parole de Dieu qui éclaire notre existence et qui nourrit notre foi aujourd'hui, nous demandons au Saint-Esprit de l'actualiser pour nous. En effet, le témoignage de Jean en ce qui nous concerne aujourd'hui ne s'épuise que dans une lecture rapide, superficielle et convenue. Nous allons faire un effort de relire tout à nouveau les récits de la résurrection. En l'occurrence, c'est le texte lui-même qui nous donne les points que nous allons aborder ce matin. Qui est Thomas? La rencontre du ressuscité avec Thomas. Au-delà de Thomas. Et puis comment comprendre cette parole du ressuscité, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors commençons donc par le premier point, qui est Thomas? Le récit de ce matin nous offre une photographie de Thomas à l'instant T. La vie d'un homme ne peut être réduite à une photo, car elle est comme un film qui se déroule. Alors, que nous offre la Bible sur Thomas? Très rapidement, voici. Thomas, premièrement, c'est un apôtre. Un apôtre au même titre que Pierre, Jean, André et les autres. Il a été appelé par le Seigneur pour constituer l'équipe des 12 qui allaient être avec lui pendant tout le ministère terrestre de Jésus. De ce fait, il a consacré sa vie à suivre Jésus. C'est un proche du Seigneur. Il est aussi appelé le jumeau, sans qu'on ne nous parle de son jumeau. Ça, c'est le premier élément concernant Thomas. Deuxième élément le concernant, il est un disciple fidèle et courageux. Lorsque Lazare meurt à Béthanie et que Jésus annonce qu'il va aller en Judée, les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » C'est à ce moment-là que Thomas élève la voix et dit « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui. » Thomas désire suivre Jésus jusqu'au cœur de la bataille contre les hommes méchants que le Seigneur avait eu le courage de dénoncer comme étant les enfants du diable. Souvenez-vous dans Jean chapitre 8. Verset 44. Même si cela signifiait le sacrifice de sa propre vie, Thomas est décidé. Jusque-là, aucun disciple ne s'était montré aussi courageux. Il n'est certainement pas un poltron, c'est-à-dire un lâche. Il a un caractère trempé, une détermination dans son engagement. Nous retiendrons que sa détermination à suivre le Maître est exemplaire et nous offre un précieux enseignement, c'est-à-dire la totale disponibilité à suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à identifier son propre destin avec celui de Jésus et à vouloir partager avec lui l'épreuve suprême de la mort. Ce n'est pas rien. Nous entendons souvent les gens, pour justifier leur incrédulité ou tout simplement leur paresse, dire qu'ils sont des Thomas. Moi, je suis Thomas. Pas si vite. Vous voyez l'engagement de Thomas. Vous voyez son amour pour le Seigneur. Attention aux raccourcis faciles et gratuits. La prochaine fois, quand vous voudrez vous comparer à Thomas, pensez à cette dimension de sa vie. Ensuite, troisième élément sur Thomas, c'est un disciple humble qui cherche à comprendre de son maître. Dans une autre rencontre qui a lieu dans la chambre haute, lors du repas pascal, Jésus avait enseigné qu'il devait s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés lui-même. En les informant de son plan futur de les quitter, Thomas demande « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Ce qui nous a valu la réponse du Seigneur « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est donc tout d'abord à Thomas que cette révélation est faite, mais elle vaut pour nous tous et pour tous les temps. Chaque fois que nous entendons ou que nous lisons ces mots, pensons que le Seigneur nous parle à nous aussi comme il lui a parlé. Dans le même temps, sa question nous confère à nous aussi le droit, pour ainsi dire, de demander des explications à Jésus. Souvent, nous ne le comprenons pas. Ayons le courage de dire « Je ne te comprends pas, Seigneur, écoute-moi, aide-moi à comprendre ». De cette façon, avec cette franchise qui est la véritable façon de prier, de parler avec Jésus, nous exprimons la petitesse de notre capacité à comprendre et dans le même temps, nous nous plaçons dans l'attitude confiante de celui qui attend la lumière et la force de celui qui est en mesure de les donner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Thomas. Maintenant, Thomas est face au témoignage de ses collègues sur la résurrection. Au moment où Jésus est apparu pour la première fois aux disciples, Thomas n'était pas là. Et après, Thomas revient et les disciples lui disent, ses collègues lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » La résurrection est le cœur même de la foi chrétienne. Elle n'est pas une théorie à laquelle on peut tout simplement adhérer parce que les autres en ont parlé. Elle est une réalité qui présente humainement une difficulté à laquelle croire. Faut-il le rappeler, la foi naît nécessairement d'une rencontre personnelle avec le ressuscité. Oui, il n'y a pas de foi par procuration. Il y a une foi personnelle qui nous intègre par la suite dans une communauté de croyants. Alors quand les disciples disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur », voici comment il réagit. Thomas, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas, dit Thomas. Thomas ne doute pas de la résurrection du Christ. Ce n'est pas un scepticisme, un doute froid. Thomas n'est pas crédule. C'est-à-dire celui qui croit facilement ce qu'il entend, qui croit sur une base fragile, qui est un peu naïf. Non, Thomas n'est pas de cette trempe-là. Il veut fonder sa foi sur du solide. Il désire une foi ferme, sûre, inébranlable. S'il a des preuves, il croira, sinon cela ne passera pas. Il ne cache pas ses doutes, il les exprime, il est sincère. Il ne fait pas semblant de croire pour faire plaisir aux autres disciples, ou à Dieu, ou en se donnant bonne conscience. Il est vrai, authentique. Il faut noter que Thomas ne met pas en doute tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il bute ici à un aspect de la foi, même si c'est le cœur de la foi. Frères et sœurs, combien sommes-nous à lui ressembler, à nous heurter comme lui à cette incroyable nouvelle. Jésus vit, il est ressuscité. Nous n'oserons peut-être pas le dire de manière frontale, mais en biais, nous le faisons lorsque nous nous heurtons à des situations d'échec et que nous finissons par croire que l'échec a le dernier mot et qu'il a triomphé. Ne sommes-nous pas en train de douter de la résurrection du Christ, de la victoire de la vie sur la mort, sur l'échec, sur les souffrances, etc. Oui, combien sommes-nous dans ce cas? Oui, il nous arrive à tous d'être contaminés par la pensée dominante au point de nous demander si tout ce que dit la Bible a une quelconque réalité, si tout cela a un sens. Oui, il nous arrive d'être impressionnés par la manière dont notre siècle se passe de Dieu. Il nous arrive d'être troublés par le silence de Dieu quand il ne répond pas à nos prières. Il nous arrive d'être effrayés par la cruauté, par l'injustice et par la violence d'un monde qui continue à vivre comme si Jésus n'était jamais venu, au point de douter de l'existence et de l'amour d'un Père et de nous demander si ceux qui y croient ne sont pas les victimes d'une gigantesque mystification. Oui, cela nous arrive. Et même quand notre doute n'est pas théorique, quand il ne porte pas sur telle ou telle affirmation précise de l'histoire du salut, nous avons tous, chaque jour, tellement de peine à faire confiance concrètement aux promesses de Dieu, à nous appuyer sur le ressuscité et à vivre de sa vie. Que Thomas l'incrédule, le sceptique, Thomas l'homme qui doute, nous apparaît vraiment comme un frère. Avec Thomas, nous sommes en bonne compagnie. Avec lui, nous sommes présents dans la Bible, présents dans l'histoire de Jésus. Thomas est tout simplement exigeant. Il veut trois preuves, voir, toucher les mains percées et le côté percé du Seigneur. C'est le crucifié qu'il veut, pas un autre, pas un imposteur qui viendrait se présenter. Et puis, arrive le temps de la rencontre du ressuscité avec Thomas. Oui, Jésus, absent, invisible, silencieux, a entendu ce que disait celui qu'il aime. Il a tenu compte de sa difficulté de croire. Jésus, quand il arrive, il ne dit pas à Thomas « Tu es vraiment bête ». Il ne lui fait pas de reproche non plus. Il a pris au sérieux ses doutes. Et il va accéder à sa requête. Jésus sait que la foi ne va pas de soi. Il sait que l'homme a besoin de son aide pour croire. Et pour Thomas, Jésus fait quelque chose de proprement inouï. En effet, 8 jours plus tard, le Christ ressuscité est là. Il entend nos cris, nos défenses, nos murmures. Il est à l'écoute de nos appels, même quand ils franchissent nos lèvres sous forme de protestations. C'est pourquoi n'enfouissons pas nos doutes, n'enfouissons pas nos questions. Et quand le ressuscité arrive au milieu de ses disciples avec Thomas, il dit « Shalom, que la paix soit avec vous ». Ensuite, le ressuscité s'adresse personnellement à Thomas et réalise une à une, avec une exactitude surprenante, les conditions posées par Thomas. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Jésus rejoint Thomas là où il est. Les signes de la croix et de la résurrection sont là. Ne doute plus. Jésus lui permet de faire les 3 expériences qu'il s'est imaginées. Voyez, frères et sœurs, le chemin de la foi est ouvert devant toi, dit Jésus. Jésus comprend le problème de Thomas. il comprend dans quel domaine il a de la peine à croire. Vous voyez ici la grandeur du Christ. Il désire que Thomas croie en sa résurrection, puisque c'est le point central. Les gens ne se convertissent pas tous de la même manière. Voyez l'amour du Christ, sa compréhension, sa patience et son sens de la relation d'aide. Il n'a pas balayé les doutes de Thomas du revers de la main, il les a pris au sérieux. Lorsque le Seigneur dit à Thomas, « Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi », après lui avoir donné les signes, il sait que les signes ou les miracles ne conduisent pas toujours à la foi. Combien de pharisiens ou sadducéens ont vu les miracles de Jésus? Et combien ont-ils cru en lui? Vous vous souvenez peut-être de ce fermier qui perdait tout le temps ses veaux à la naissance. Et puis un jour, il fait cette prière, « Seigneur, si tu me donnes deux veaux, je t'en donnerai un. » Sa prière fut exaucée. Il eut donc deux veaux. Malheureusement, un des veaux était né avec un défaut. Sa femme lui demande, « Quel est le veau que tu as consacré au Seigneur ?»« Oh, c'est sans doute l'un des deux, » répondit-il. Et puis un jour, un des veaux meurt. « Léonie, » dit le fermier à sa femme, « le veau du Seigneur est décédé. » Le miracle ne conduit pas toujours à la confiance. Nous n'avons peut-être pas de doute sur la résurrection de Jésus, mais dans d'autres domaines, oui. Nous pouvons les dire à Jésus, afin qu'il nous rencontre comme il a rencontré Thomas. Jésus n'a pas argumenté longtemps avec Thomas, il lui a permis de regarder et de toucher ses marques. Le texte ne nous dit pas si Thomas a touché le Seigneur. Il était tellement bouleversé de joie en voyant le Seigneur, heureux de s'être trompé, heureux que les autres disciples aient eu raison, que le ressuscité soit là devant lui, qu'il ne lui restait qu'une chose, se prosterner immédiatement, follement heureux de vivre une telle expérience et d'adorer. Mon Seigneur et mon Dieu. Je crois, oui, je crois. Quelle chance, Seigneur, je t'adore et je t'aime. La confession de foi de Thomas dépasse tout ce qu'il a déjà été dit. Oui, elle dépasse tout ce qui a déjà été dit. Constatons que dans les récits que nous avons parcourus depuis, aucun disciple n'a dit un seul mot au ressuscité, à part Marie, qui a dit « Rabouni ». Ils étaient dans la joie, mais personne n'a osé adresser la parole au Seigneur. Thomas est le deuxième, et sa confession de foi est extraordinaire. « Mon Seigneur et mon Dieu ». En hébreu, « Adonai, Elohim ». Le juif qu'il est exprime la plénitude de la foi d'Israël en l'appliquant à Jésus. La parole est devenue homme, la parole est Dieu. En Jésus, le ressuscité manifeste pour lui la pleine vérité, la pleine révélation du Dieu de ses pères. Voyons maintenant au-delà de Thomas. Nous disons que les Écritures nous sont données pour y entendre, y écouter la parole de Dieu qui éclaire notre existence et qui nourrit notre foi aujourd'hui. Comment comprendre cet enseignement du Seigneur qui conclut la rencontre avec Thomas ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Certains estiment que cette parole s'applique à nous, qui, 20 siècles plus tard, avons la foi sans avoir vu Jésus ressuscité. Peut-être. Mais je pense qu'il serait bien présomptueux de nous juger supérieurs à Thomas et aux autres apôtres. Qui pourrait se vanter de croire sans avoir vu? Tous nous avons besoin de voir pour croire, de toucher, d'entendre pour grandir dans la foi. Aucun des apôtres, en tout cas, n'a cru sans voir. La béatitude qui invite à croire sans avoir vu n'est pas simplement une leçon donnée à Thomas, mais à tous les apôtres. L'Évangile dit que Jésus, après avoir souhaité la paix aux 10 qu'il avait rencontrés le soir de Pâques, leur montra ses mains et son côté. Une apparition rapportée par Luc souligne de manière encore plus nette la difficulté que tous les apôtres avaient à croire. Jésus leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau. » Et vous constatez que j'en ai. Jésus leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Mais alors, si nous avons tous besoin de voir pour croire, pourquoi Jésus déclare-t-il heureux ceux qui croient sans voir? Peut-être parce que la foi au ressuscité est d'abord une grâce, un don, une œuvre de l'Esprit Saint, et personne ne peut s'en vanter. Peut-être aussi parce que le jour où surviendra une épreuve dans notre vie, le jour où nous serons en proie à un grand désarroi intérieur, ou guettés par le désespoir, nous aurons besoin de lui faire confiance. Jésus pense au jour où tu souffriras et où tout d'un coup ta foi deviendra trouble et douloureuse. Il te dit, même dans ces jours-là, même quand tu seras dans la nuit, continue de croire. Heureux es-tu si tu arrives à me faire confiance, même lorsque tu ne vois plus rien. Nul d'entre nous n'est à l'abri de ces jours d'épreuve et d'obscurité, de la nuit qui traverse notre vie. Mes frères et sœurs, est-il correct de qualifier Thomas d'un douteur, de le considérer comme le mouton noir parmi les disciples du ressuscité? Nous venons de voir qu'à bien des égards, Thomas est un exemple à suivre. Il est un exemple d'humilité, d'amour, de détermination, d'engagement, de courage, d'audace et de sincérité. Sur les traces de Thomas, notre frère, il vaut la peine, je crois, que nous prenions au sérieux toutes les questions sur la foi qui nous surviennent et que nous les apportions au Seigneur dans la prière et dans la foi. Cela pourrait nous aider à jeter par terre la fausse image que nous nous faisons trop souvent du chrétien comme de quelqu'un qui vit dans la sérénité absolue d'une foi sans nuages. Elle pourrait nous aider à jeter par terre notre fausse conception de la prière idéale comme d'un discours qui ne comprendrait jamais que des choses douces, soumises et aimables. Jamais de protestations, jamais de doutes, et tout au plus quelques rares questions, bien anodines et respectueusement reléguées sur les bords. On oublierait presque ce que nous enseignent les psaumes, véritable école de la prière, où la vraie prière est libérée. Que de protestations, de rage, de révolte, de doute, d'imprécation même, exprimée. Dans les psaumes, on est à bonne école. Jésus fera-t-il la même chose avec nous comme il l'a fait avec Thomas? Je réponds oui, sans hésiter. Je le crois. Oui, il fera la même chose. Les modalités peuvent changer. Il ne nous convaincra pas par des apparitions, du moins en règle générale. Il le fera en nous renvoyant au témoignage de ceux qui ont vu. Il le fera en nous renvoyant à la parole reçue, à la Bible lue dans la communauté des frères. « Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu », dit Jésus à Thomas, reconquis. Et l'évangéliste ajoute, « Ce qui se trouve dans ce livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour que par cette foi vous ayez la vie en lui. » Il le fera par l'action victorieuse et convaincant de l'Esprit qu'il a promis de manière ferme à ceux qui le demandent sérieusement, c'est-à-dire avec la volonté arrêtée de se laisser engager au service de Dieu, dans le service des frères. C'est pourquoi, à nous tous qui doutons, je recommande ceci. Ne classons pas le dossier Gardons-nous de considérer l'affaire comme réglée. Gardons-nous de l'indifférence. Disons au Seigneur tout simplement où nous en sommes. Confions-lui, même si c'est avec violence, nos doutes, les incrédulités qui nous habitent, les impossibilités de croire qui nous cabrent, car la foi n'est pas un énoncé théorique à proclamer, un slogan à scander, elle est la racine qui nourrit notre vie, qui la porte. Elle concerne notre vie tout entière dans ses aspects divers et variés. Elle est notre manière d'être au monde et aux autres. Il est nécessaire que le Saint-Esprit passe par là pour la faire naître, pour la fermir, pour la ressusciter. Avec d'autres, ouvrons la Bible et demandons le cadeau de l'Esprit. Disons, parle Seigneur, ta servante, ton serviteur, écoute. Ô Seigneur, viens-nous en aide. Amen. Confessons maintenant notre foi ensemble. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en Jésus-Christ, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut.
Et nous voulons le faire à travers le chant « Mon Rédempteur est vivant, arc-en-ciel 475 ».
Garde-nous dans ta clarté.
Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur notre Père, nous te louons pour ton amour envers les humains que nous sommes. Pour nous, tu envoyas ton Fils, ton unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour le don du Saint-Esprit et pour son ministère dans le monde et dans le chrétien. C'est lui qui nous conduit vers ton Fils, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui fait naître la foi au ressuscité. Nous n'avons aucun mérite d'être devenus des frères et sœurs de Jésus, car tout est pure grâce. Père, nous te prions pour des vrais Thomas d'aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes et des femmes sincères qui cherchent à fonder leur foi sur du solide. Veuille te révéler à chacun et à chacune comme tu le fis pour Thomas. Aide-nous à être sincères dans le vécu de notre foi, afin que nous t'apportions en toute sincérité toutes les questions de foi qui nous taraudent. Garde-nous d'être crédules. Nous te prions pour des faux Thomas, afin que tu les aides à te chercher sincèrement et laisse-toi trouver. Nous te prions de donner à tes disciples l'amour, le zèle, la détermination, le courage, l'audace qui animait Thomas, lui qui avait décidé de te suivre jusqu'au bout. Garde-nous d'être téméraires, mais donne-nous à être humbles et dépendants de ton esprit. Nous te présentons notre monde et la situation qui prévaut ces jours-ci. Nous ne savons pas toujours tout ce qui se trame, tout ce qui se passe dans le secret. Mais nous te prions de nous garder du malin et du mal. Nous te prions afin que ton nom soit sanctifié aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Nous prions que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu notre Père, veuille prendre soin de tous ceux qui souffrent, soit du Covid-19, soit d'autres maladies. Sois celui qui soulage leurs peines et qui les guérit. Veuille prendre aussi soin du personnel soignant. Veuille le renouveler physiquement, psychologiquement et spirituellement. Père, nous te prions que tu veuilles bien tourner les regards de nos contemporains vers ton Fils, le Sauveur de l'humanité. Renouvelle ton Église afin qu'elle porte et annonce avec foi l'évangile de Jésus-Christ à notre monde. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont proches et qui nous sont chers, et que nous te citons maintenant dans le secret de notre cœur. Oui, souviens-toi de nos aînés. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui pleurent la perte des êtres chers, de tous ceux qui luttent encore contre la maladie, de tous ceux qui souffrent en silence. À toi seul appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons quelques instants pour les annonces. Le déconfinement pointe son nez tout doucement, mais nous serons prudents et ne relâcherons pas la vigilance quant aux consignes nous données. Dans l'entretemps, poursuivons l'intercession, renforçons les liens par des moyens disponibles, prenons les nouvelles des uns et des autres, encourageons-nous. Quant à la prière, je vous enverrai les requêtes de prière. Les cultes seront mis en ligne chaque dimanche avec le même lien que les autres semaines. Quant aux études bibliques, nous cherchons des moyens de pouvoir le faire en vidéoconférence. Et puis, dernière annonce, bon, l'offrande est à faire par virement bancaire. À bientôt, je l'espère. Et maintenant, nous allons recevoir la bénédiction. Mais d'abord, cette exhortation. Frères et sœurs, Jésus nous dit et nous redit, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que la paix soit avec vous. Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes en chemin. La grâce et la paix sont ces graines fragiles qui rendent fertiles nos journées. La grâce et la paix sont ces moissons promises qui donnent sens à nos travaux. La grâce et la paix sont ces épis de lumière qui éclairent nos nuits et gardent notre repos. La grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes en chemin. Allons et restons dans la paix de notre Dieu. Amen. Et nous terminons par le dernier cantique, la bénédiction.
Sa présence s'environne là avec toi.
tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque heure.